Bonsoir, ouvrons le temps du débat consacré ce soir à la 5G. La 5G, c'est bien sûr la cinquième génération de communication mobile. Toutefois, si la 3G a permis l'arrivée d'Internet sur les téléphones et la 4G les a transformés en petits ordinateurs portables, la 5G promet une véritable rupture bien au-delà de ces petits appareils que nous transportons partout, puisqu'elle promet d'ouvrir des perspectives en matière médicale, de transport, d'urbanisme ou encore d'industrie. Cette promesse d'un saut technologique sans commune mesure avec les précédents, d'entrer dans l'ère de l'Internet des objets, des drones et des robots, provoque évidemment enthousiasme chez certains et réticence chez d'autres. Alors que de nombreuses questions restent ouvertes en matière d'environnement, de santé ou même de choix de société et mériteraient d'être discutées dans un cadre démocratique, le débat a pris ces derniers jours une tournure qui ne semble pas à la hauteur des enjeux. En effet, à l'approche du début des enchères, le 29 septembre, pour attribuer les fréquences d'utilisation, 70 élus de gauche et écologistes ont demandé dans le journal du dimanche, la semaine dernière, un moratoire sur le déploiement de la 5G. Ils profitent ainsi d'un moment qui leur est politiquement propice pour reprendre une proposition de la Convention citoyenne pour le climat. Le président de la République, qui s'adressait cette semaine aux représentants de la French Tech, leur a répondu en rejetant ce qu'il a appelé le modèle Amish et une volonté de retour à la lampe à huile. Alors 5G, êtes-vous Amish ou technolâtre? C'est la question du temps du débat ce samedi, à écouter en direct sur France Culture et quand vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
La France est un pays de réseaux, d'équipements, historiquement les routes, les canalisations d'eau, et maintenant l'équipement de numérique. Grâce au New Deal, on doit finaliser, et c'est un des objectifs, un des KPI du secrétaire d'État, dans les tout prochains mois, lui aussi, on lui accélère ses objectifs, donc 3G, 4G partout, et un Internet mobile haut débit. Mais on doit aller plus loin, plus fort. Je pense que là, on va l'accélérer et évidemment, on va passer à la 5G. Je veux être très clair. La France, c'est le pays des Lumières. C'est le pays de l'innovation. Et beaucoup des défis que nous avons sur tous les secteurs, ils se relèveront par l'innovation. Et donc, on va expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
Voilà, le président de la République, c'était cette semaine devant la French Tech, c'est-à-dire les entrepreneurs de la technologie, des nouvelles technologies. Bonsoir Serge Habitboul.
Bonsoir.
Vous êtes nos trois invités ce soir. Vous êtes membre du collège de l'ARCEP. L'ARCEP, c'est cette agence qui va être responsable, qui est responsable d'encadrer notamment la mise en vente aux enchères des fréquences de la 5G, qui accompagne finalement le déploiement, qui doit accompagner le déploiement de la 5G en France. Vous êtes aussi directeur de recherche en informatique à l'École normale supérieure de Paris et à l'INRIA. Avec vous en studio ce soir, Yael Benayoun. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la cofondatrice de l'association Le Mouton Numérique. C'est une association qui propose de faire débattre justement de ces questions de saut technologique, ces questions de choix, de progrès technologique et d'en faire des véritables sujets politiques, puisqu'on verra ce soir que c'est peut-être l'un des problèmes avec la 5G, c'est que ce n'est jamais véritablement un vrai sujet de débat, puisqu'on renvoie terme à terme, hein, comme je le disais, les Amish et les technolates, mais ce n'est peut-être pas quelque chose de propre à ce débat. Jean-Baptiste Fressos, vous êtes historien, bonsoir.
Bonsoir.
Historien des sciences, des techniques et de l'environnement, auteur de l'Apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique qui avait paru à l'univers historique, la collection L'univers historique au Seuil en 2012, et vous avez incarné un rôle étonnant dans un article du Nouvel Observateur, enfin de l'Observateur pardon, sur en ligne récemment, parce que vous avez incarné la lampe à huile qui véritablement, voilà, ça s'offusquait un petit peu d'être toujours ringardisé, parce que finalement c'est un peu l'œuvre d'art, enfin le top de la technologie à son époque. Peut-être que vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure, mais un mot tout de suite sur la question du jour, volontairement provocatrice, puisqu'on va essayer justement de faire sortir le débat de l'alternative entre Amish et technolates. Dans un billet de blog Mediapart, le sociologue Dominique Boulier, qui était l'invité de la question du jour des matins de France Culture cette semaine, se demandait justement si on pouvait avoir un débat stratégique sur la 5G sans se contenter des a priori pour ou contre. Quelle est votre position à ce sujet, Serge Habitboul? Est-ce que, d'abord, vous pensez que le débat est au bon niveau aujourd'hui? Et sinon, est-ce qu'il pourrait l'être? Et sous quelles conditions, évidemment?
Est-ce qu'il faut un débat? Je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il faut évidemment un débat parce que on a une technologie qui est vraiment une technologie de rupture. C'est une technologie qui va mettre un certain temps à s'installer. Elle va pas arriver demain matin, malgré que même si les fréquences sont vendues. Mais il y a vraiment un vrai questionnement sur comment on va utiliser cette technologie, et cette technologie doit être mise au service du pays. Alors, c'est pourquoi il y a besoin d'un débat? Parce que c'est vrai que c'est une technologie qui apporte des tas de choses, qui apporte, je sais pas, dans les campagnes, qui va amener des avancées pour la connectivité des gens, mais surtout qui va être fondamentale pour l'industrie, pour les territoires connectés, etc. Il y a plein de côtés positifs, mais il y a l'inquiétude légitime de savoir si cette nouvelle technologie on va pas en abuser, si on va pas. Alors moi j'aime pas trop l'histoire de regarder des frigidaires connectés, parce que les frigidaires sont sur Wi-Fi, ou des vidéos dans l'ascenseur, qu'elles soient porno ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème de savoir qu'est-ce qu'on va faire de cette techno. Et ça, il faut en discuter. Alors, la deuxième partie de votre question, c'est: est-ce que le débat se situe au bon niveau? Ça dépend quel débat. À l'ARCEP, on a commencé à débattre il y a déjà un certain temps. Il y a eu une consultation publique sur la 5G. On a fait une étude pour savoir l'impact du numérique. Et on a l'intention de placer tout ça dans un débat beaucoup plus général sur l'impact en général du numérique, pas juste de la 5G. Ce qu'on lit en ce moment dans les journaux, en tant que régulateur des télécoms, je dois avoir une position un peu distante, donc je ne vais pas dire exactement ce que j'en pense, quoi.
Bah, très bien. Peut-être que Yael Ben Ayoun va mieux dire, elle, ce qu'elle en pense, puisqu'elle, avec votre association Yael Ben Ayoun, le mouton numérique, justement, vous œuvrez pour instaurer le débat sur ces questions-là. Donc, même question, est-ce que vous estimez que le débat aujourd'hui est au bon niveau?
Oui, alors peut-être juste avant, pour préciser qu'il n'y ait pas de confusion sur le rôle de l'association, on n'organise pas des débats citoyens sur ces questions technologiques. Mais en revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des événements, plus précisément, donc des débats, mais j'allais dire débats culturels, événementiels, un peu comme on fait aujourd'hui, pour essayer d'amener dans le débat public, on va dire, les bonnes questions sur ces sujets-là. Voilà, c'était juste une petite précision en passant. Du coup, je rejoins en fait ce qu'a dit Serge Habitboul juste avant moi, sur le fait que ce qu'il faut comprendre avec la 5G, c'est que c'est pas juste, j'allais dire, une 4G+. Enfin, si, ça va être une 4G+, dans les 3 et même peut-être 5 prochaines années. Mais à terme, si toutes les fréquences, enfin, si on va jusqu'à la dernière fréquence, l'idée, et d'ailleurs, c'est bien en ce sens que vont toutes les tendances et les prévisions prospectives, c'est bien d'aller vers une explosion des équipements et des usages numériques. Et quand je dis explosion, c'est-à-dire dans les pronostics, si on peut dire ça comme ça, l'idée c'est que dans les 5 prochaines années, il y a un doublement des équipements, ce qui est quand même pas rien, et qu'on arrive en 2030, je crois, à 125 milliards d'équipements connectés.
Donc, alors, soyons clairs, oui. Des équipements connectés qui ne sont pas que à usage des particuliers, justement. C'est peut-être là aussi qu'il y a une différence fondamentale avec la 3G ou la 4G, puisqu'elles nous ont changé la vie, certainement, à titre individuel, avec les smartphones et l'utilisation qu'on peut en avoir. Ce qui est visé, finalement, avec la 5G, en tout cas, le saut qualitatif avec la 5G, évidemment, ce sera un peu plus rapide pour nos téléphones. Évidemment, il y aura un temps de latence un peu moindre. Et la technologie des objets connectés ou des voitures autonomes, puisque c'est aussi ça qui est en jeu, nous serons touchés individuellement. Mais c'est véritablement une technologie pour les industries. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté beaucoup aujourd'hui.
Alors, c'est effectivement comme ça que c'est présenté, mais là, il y a peut-être deux points de vigilance, en tout cas, à avoir en tête. Premièrement, c'est qu'il y a un enjeu de rentabilité pour les opérateurs, et c'est pas du tout...
Qui installe évidemment les antennes.
Oui, qui installe, pardon, les antennes. Et c'est pas du tout dit, et même pour le moment, tout invite à penser le contraire, qu'un seul déploiement industriel et du coup localisé suffisent en fait à combler les investissements. Il y a des enquêtes qui montrent que en termes de coûts d'infrastructure, le fait pour d'un opérateur télécom de développer ses réseaux, je crois que ça augmente plus de 300% leur coût d'infrastructure. Enfin bon, bref. Donc tout ça pour dire que déjà il y a cette question là qui déjà est quand même à prendre en compte, puisque s'il y a un enjeu de rentabilité, c'est-à-dire qu'il y a certaines zones qui peut-être ne seront pas déployées, notamment il y a un peu ce mythe de ça, on pourra résorber les déserts médicaux en mettant la 5G partout avec la télémédecine, etc. Bon, en fait, il y a peu de chances aujourd'hui que, en tout cas en France, les opérateurs développent la 5G dans les zones rurales, puisque ça représente, en tout cas si on regarde ce qui s'est passé au Royaume-Uni, 78% du coût total sont sur ces espaces vides, et c'est évident que les abonnements pourront pas
du coup, mais pas des rentrées d'argent, puisque voilà, c'est plutôt sur les grandes villes, etc.
Donc en fait, si on regarde vraiment d'un point de vue de la rentabilité, pour les opérateurs télécoms, pour qu'ils s'y retrouvent, en fait, il faut un déploiement massif de la 5G. Ça, c'est juste le premier point. Et sur le deuxième point, quand bien même ça, dans un premier temps, ça se concentrerait sur les seules industries, enfin, les industries vont bien développer de nouvelles technologies qui, elles, auront besoin de la 5G pour être déployée. Donc l'exemple peut-être le plus frappant, c'est l'industrie de l'automobile et l'industrie du téléphonie qui stagne depuis ces trois dernières années.
Alors on va rentrer dans ces détails, mais on est peut-être arrivé un petit peu trop rapidement, mais c'est pas grave, on a 50 minutes, mais c'est pas de votre faute, Yael Ben Ayoun, c'est très bien, on fait un peu comme une introduction, on annonce les sujets qui vont être abordés pendant cette émission, mais puisqu'on était d'abord sur la question de savoir quel était l'état du débat sur les technologies, et est-ce qu'il est placé au bon niveau, Jean-Baptiste Fresseau, je rappelle que vous êtes historien, que vous avez travailler sur cette question des sciences, des techniques et aussi de l'environnement d'ailleurs, puisque c'est un point qui est important avec la question de la 5G, on aura l'occasion d'en discuter, mais est-ce que ce type de saut technologique, alors là on parle de la 5G, il y en a eu d'autres par le passé, l'électricité évidemment qui vient tout de suite à l'esprit par exemple, et est-ce que ce sont toujours des moments d'affrontement, de caricature, de choix politique?
Alors est-ce que c'est un saut technologique? Moi pour l'instant, j'ai jamais entendu un argumentaire convaincant sur à quoi ça sert maintenant de faire la 5G. C'est-à-dire, même pour en prendre l'expression de Serge Habitboul, c'est fort qu'on trouve des usages à cette technologie. C'est-à-dire, on a ce machin et en fait, concrètement, ça sert pas à grand-chose, quoi. Donc, il y a un peu ce gros problème, c'est qu'il n'y a aucune technologie qui vraiment semble arriver tout de suite et pour se dépêcher de faire la 5G. Il n'y a aucune urgence, mais c'est ça qui me frappe. C'est le côté, on a l'impression que faut le faire tout de suite, sinon on va se faire dépasser, mais j'ai un peu regardé des articles de revues plutôt technophiles, genre l'Usine Nouvelle, ce genre de choses. Ce qu'ils proposaient était risible, en fait, dans le genre d'application, quoi. Effectivement, bien sûr, des chirurgiens qui vont aller téléguider des bras pour aller opérer des gens à des milliers de kilomètres. Bon, déjà, ça semble complètement de la science-fiction. Il y a un énorme problème juridique. Pour régler des déserts médicaux, il y a quand même des solutions un peu plus simples, à savoir payer des médecins pour qu'ils aillent à la campagne. Enfin, je veux dire, tout ça est assez, c'est vraiment particulièrement caricatural, je trouve, ce débat. Et je pense qu'il est caricatural parce que la situation est effectivement assez étrange. C'est-à-dire, ce coup de force, faut absolument faire la 5G, alors que personne ne demande à avoir un débit beaucoup plus rapide sur son téléphone portable. Et ce que vous expliquez sur le fait que pour que ce soit rentable, il faut faut amortir le coût sur tous les usagers du téléphone. Ça, c'est drôlement intéressant. Parce que, évidemment, si pour les industriels c'est nécessaire, je sais pas moi, pour la logistique des ports, j'avais lu des applications là-dessus, on pourrait très bien imaginer une sorte de développement très très localisé sans mettre ça partout. Voilà, donc tout ça me semble assez bizarre, effectivement. La voiture autonome, ça c'est quand même génial, parce qu'on en parle depuis bientôt un siècle quand même, de la voiture autonome. C'est-à-dire, la voiture autonome, c'est la grande promesse des promoteurs de l'automobile dès le début. Dès les années 1920-1930, il y a énormément d'accidents sur les routes. Beaucoup de gens qui se font écraser, plein de problèmes de sécurité. Et très vite, on va dire, on va faire des voitures qui sont... Alors à l'époque, c'était pas évidemment l'intelligence artificielle et la 5G. C'était des ondes radio qui allaient téléguider les voitures, un peu comme on faisait déjà avec le pilote automatique des avions, ce genre de choses. Bon, on n'y est toujours pas. Moi, ça fait 20 ans que j'entends parler de la voiture autonome qui arrive. Elle est encore toujours un petit peu plus loin. Et puis, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir la voiture autonome? Est-ce que c'est vraiment une très bonne idée que de mettre en place ce système-là qui, de fait, va encourager l'utilisation de l'automobile et donc augmenter l'expansion urbaine? Enfin, voilà, je trouve qu'il y a... Effectivement, le débat n'est pas du tout au bon niveau parce qu'on se focalise sur ce micro-chose et on ne pense pas... Enfin, tout ce que ça pourrait apporter d'inutile et dangereux.
Serge Habitboul, Sébastien Soriano, qui est le président de l'ARCEP, relevait début juin, être en retard sur la 4G, c'est dommage. Sur la 5G, c'est grave, systémique. Toutes les industries perdraient la possibilité de se moderniser. La voiture connectée serait en retard, les ports, les usines. Voilà, ça reprend un petit peu ce que vient de dire Jean-Baptiste Fresseau. Qu'est-ce qui fait, selon vous et selon l'ARCEP, par rapport à toutes ces études que vous avez menées, vous l'avez dit, hein, ça fait plusieurs années que vous travaillez sur la question à l'ARCEP, qu'est-ce qui vous fait penser aujourd'hui que ce serait grave, vraiment grave, d'être en retard sur la 5G. Quelle est l'urgence pour répondre, pour reprendre le terme qu'employait Jean-Baptiste Fressoz?
Alors, pour reprendre le terme de Jean-Baptiste Fressoz, l'urgence, je ne la vois pas et elle n'existe pas. Enfin, je veux dire, c'est dans la tête des articles qu'on voit aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que ce truc est lancé, qu'il y a des standards qui sont à l'étude, des travaux qui sont faits. C'est pas du tout quelque chose qui débarque. La France n'est pas en train de pousser une technologie absolument révolutionnaire. Il y a la plupart de nos concurrents l'ont déjà, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis. Tout ça, ça existe déjà. On n'est certainement pas dans l'urgence. On a, au contraire, pas mal balisé, étudié à l'ARCEP des aspects, le point de vue environnemental, qui, pour moi, est peut-être le sujet principal que pose la 5G. Alors maintenant, revenons à la techno. C'est une techno de rupture. Quand vous dites que vous ne voyez pas ce que ça va apporter demain matin, je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il faut regarder ce que c'est. Qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que techniquement, ça vous permet de faire des ondes radio qui sont beaucoup plus denses, donc qui vont vous permettre d'augmenter les débits. Deuxièmement, qui vont vous permettre d'avoir bien meilleure latence. Donc, si vous voulez, pour reprendre l'exemple que j'aime beaucoup sur la chirurgie médicale, vous pouvez, ou même juste un examen médical, vous pouvez avoir un retour d'effort quasiment immédiat et donc faire vraiment des choses à distance qu'on peut pas faire aujourd'hui avec la techno.
Avec la fibre, c'est pas possible, par exemple?
Avec la fibre, oui, mais quand vous êtes, alors peut-être que si, en France, on pourrait se permettre ça, mais moi, je sais qu'il y a des expériences dans des pays d'Afrique où il n'y a pas la fibre partout. Donc, il faut pas regarder que d'un point de vue purement franco-français.
Voilà, la question, se pose en France en ce moment.
Oui, mais il y a beaucoup d'autres, il y a l'usine, etc. C'était juste un exemple. C'était pour souligner le deuxième point qui est la latence, c'est-à-dire un aller-retour du message extrêmement rapide, beaucoup, beaucoup plus rapide, qui permet de faire des applications qu'on ne pouvait pas faire avant. Et le troisième, c'est la fiabilité, qui est peut-être le plus disruptif d'une certaine façon et sur lequel on n'a pas encore véritablement de choses qui marchent. C'est-à-dire que ça, ce sera dans 2-3 ans. On nous présente la 5G comme débarquant demain matin. On se calme, la 5G ne débarque pas demain matin. Ça va démarrer très doucement avec la 5G qui est en node standalone, qui ne permet pas tout ce que j'ai dit, qui ne permet pas la fiabilité, il n'y a pas le slicing, il n'y a pas tous ces trucs-là. Le slicing, c'est ce qui va permettre de couper une bande de fréquence en plusieurs morceaux et de filer un bout de morceau à une application qui va demander des exigences. Si vous voulez, si vous avez une application, je reprends la télémédecine, mais ça peut être aussi une application d'usine, vous ne pouvez pas vous permettre que votre application s'arrête parce que quelqu'un est en train de télécharger une vidéo en même temps juste à côté de chez vous. Donc il faut que vous puissiez, d'une certaine façon, réserver un créneau pour votre application qui est particulièrement demandeuse en termes de sécurité. Ça va être aussi très disruptif. Alors maintenant, est-ce que je suis capable de vous dire quelle est l'appli qui va être la killer app demain matin? Non, j'en sais rien. J'ai une intuition, comme tout le monde. Moi, je pense que ça va être plutôt les usines, ça sera plutôt les territoires connectés, ce sera plutôt ce genre de choses.
Mais pour faire quoi dans les usines?
La voiture connectée, j'y crois personnellement pas forcément. Et puis en plus, je ne suis pas certain que cette communication soit la même chose. Il y a des voitures que vous dites que ça n'existe pas. Ça existe aujourd'hui, les voitures connectées. On fait déjà des voitures autonomes, ont déjà fait des millions de kilomètres. Sans être connecté par la 5G. Donc, c'est pas vraiment ça qui me paraît être le plus important. Mais j'en sais rien, encore une fois.
On verra, peut-être qu'on aura l'occasion d'évoquer les possibilités, mais je voulais vous entendre, Yael Ben Ayoun, sur justement cette question. Est-ce qu'il faudrait avoir un débat en deux temps? C'est-à-dire, en fait, on a l'impression qu'on nous dit il faut lancer avec ces enchères fin septembre, de toute façon, il faut lancer l'équipement, c'est-à-dire l'équipement du territoire en antenne 5G, avant même de savoir quelle va pouvoir être véritablement l'utilité, en faisant un pari, finalement, mais ça... un pari technologique, ce ne serait pas la première fois qu'on le fait. Qu'est-ce qui, en l'occurrence, vous paraît problématique avec le fait d'installer tout simplement des antennes 5G?
Okay. Peut-être j'aimerais bien revenir un peu sur les enjeux en fait, de la 5G. Donc effectivement, Serge Habitboul a parlé du coût environnemental, qui d'ailleurs en ce moment est un peu en débat. En ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que le débat aujourd'hui se focalise vraiment sur la consommation, énergétique, en fait, de la 5G. Alors que même sur la question environnementale, il y a plein d'autres questions à prendre en compte. Notamment,
comme toujours quand il est question d'environnement.
Mais notamment, là, je pense que le plus évident, c'est celui de l'extraction des métaux qui seront nécessaires à faire non seulement les antennes, mais surtout tous les objets connectés dont on parle et que visiblement on attend, puisque c'est dans toutes les tendances. Et il faut quand même même rappeler que ces tendances prospectives ont quand même un aspect auto-prophétique, puisque si vous dites qu'un secteur va être en 2030 à X milliards, bah bien sûr, les investissements vont aller là-dessus et ils ne vont pas aller ailleurs. Bref. Ce qui est aussi, je pense, important d'avoir en tête, c'est de s'interroger quand même sur la potentialité de cette ultra-numérisation de la société. Parce que oui, effectivement, là, ça ne va pas changer quelque chose si demain, il y a la 5G. Enfin, on pourra juste faire effectivement ce qu'on fait aujourd'hui, peut-être un peu plus vite. Sauf qu'il y aura quand même les infrastructures qui seront en place. Et donc, ça va permettre plus facilement que d'autres technologies qui ne sont pas des infrastructures de se connecter au réseau et de se déployer, là, pour le coup, sans vraiment aucun contrôle démocratique. Et juste sur cette ultra-numérisation, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'en fait, quand on numérise une activité, on change aussi la nature de l'activité. C'est pas juste seulement une petite optimisation. Enfin, ça a un effet concret. Il y a juste un exemple, peut-être pour illustrer, que je reprends de la philosophe et docteur en droit Antoinette Rouvroy, qui prend l'exemple des algorithmes d'aide à la décision dans le monde juridique. Où elle dit, bon, bah, en fait, en plus, en ce moment, ça se développe pas mal. A priori, ça change pas grand-chose, ça aide juste le juge à prendre sa décision. En fait, ça change radicalement ce qu'elle appelle la fonction anthropologique du droit, puisque d'un côté, on a un algorithme, et comment un algorithme fonctionne, c'est-à-dire qu'il va regarder tous les antécédents, j'allais dire, de cas similaires, et il va dire, bon, bah, il se trouve qu'il y a X% de cas similaires qui ont été traités de cette façon, donc je recommande de traiter le cas de cette façon-là. Ce qui revient, en fait, à penser que la justice est déjà rendue. Alors même que ce qui se joue dans un procès, c'est la possibilité de rejouer la norme, et c'est ce qui rend possible, par exemple, la désobéissance civile. Et juste pour conclure là-dessus, c'est qu'il faut aller voir la question de la 5G un peu plus précisément. C'est-à-dire, il y a un moment, OK, ça va permettre une ultra-numérisation de la société, mais pour quoi faire? Si c'est juste pour réduire des coûts, ça pose question. Mais ça, parce que ce n'est pas neutre en dessous.
Ça, en définitive, Jean-Baptiste Fressaud, la question telle que la pose à l'instant Yael Ben Ayoun, c'est toujours la question, j'ai envie de remonter presque à la philosophie grecque et au pharmacon, c'est-à-dire une technologie, elle peut être à la fois bonne ou mauvaise, c'est évidemment l'utilisation qu'on en fait qui va déterminer les choses. Et donc, je repose ma question, parce que vous aviez l'air de réagir. En quoi le simple fait d'installer des antennes soit en soi un problème, puisque est-ce qu'on ne devrait pas plutôt discuter de l'utilité ou l'utilisation qu'on va en faire par la suite?
Bien sûr, c'est ça dont on devrait discuter, sauf que pour discuter, il faudrait qu'il y ait des propositions un peu sérieuses, et il n'y a aucune proposition sérieuse sur dire ça va nous servir à quelque chose là maintenant, ou même dans 2-3 ans. Donc à partir de là, c'est même difficile en fait d'avoir un débat, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est dans une sorte de pensée unique où c'est, voilà, ça existe, il faut le faire, et si on ne le fait pas, on va se faire bouffer, c'est la catastrophe, etc. Ce qui est un discours évidemment ultra classique depuis 2 siècles, les autres le font, donc il faut qu'on le fasse, quoi. C'est à peu près de ce niveau-là quand même le raisonnement actuellement. C'est vrai que c'est particulièrement affligeant à un moment où je sais pas, on est censé réfléchir aux trajectoires de développement. Est-ce que c'est bien de toujours consommer plus de numérique? Parce que, évidemment, ce qui va se passer avec la 5G, c'est qu'après, il y aura un marketing sur il faut acheter un téléphone 5G, donc il faut que vous achetiez un nouveau téléphone. Donc, évidemment, c'est toutes ces consommations matérielles annexes qui vont peser très lourd dans la balance écologique. Les émissions de CO2 liées au numérique, c'est de l'ordre de 3% des émissions. C'est pas rien non plus. Alors, c'est pas énorme, mais c'est pas rien. C'est à peu près équivalent au transport aérien. Donc, on parle pas non plus de queue de cerise. Donc, l'idée serait plutôt d'essayer de contrôler, il me semble, nos consommations numériques plutôt que de mettre en place des futures autoroutes où on va bien trouver effectivement des choses à consommer. J'en doute pas, le capitalisme est très astucieux pour ça, mais... Voilà, je trouve que effectivement le débat est particulièrement ubuesque en fait sur cette affaire.
Serge Habitboul, dans une tribune dans Le Monde, Hugues Verbeuf et Jean-Marc Jancovici, qui sont des spécialistes de la transition énergétique notamment, s'interrogeaient. Alors ils posaient la question de manière assez brutale: la 5G est-elle vraiment utile? Et notamment à la fin de cette tribune, ils disaient est-ce qu'on n'est pas en train de mettre sur la 5G, sur le développement de la 5G, des efforts, qu'ils soient financiers, intellectuels, tout ce que vous voulez, qu'on pourrait mettre ailleurs dans des endroit plus utile?
C'est une vraie question. C'est une vraie question. Je pense que la réponse, c'est que oui, c'est très utile, et qu'il y a suffisamment de preuves sur les fonctionnalités que ça apporte et sur les applications envisagées pour penser que c'est très utile. Pour en citer une dernière, par exemple, si vous voulez gérer des choses très compliquées, très complexe aujourd'hui et faire diminuer le coût environnemental, la 5G peut vous être utile à ça. C'est-à-dire que c'est aussi utile dans un système très distribué, dans un truc beaucoup moins centralisé. Prenez un smart grid, faire une centrale
nucléaire. Un smart grid.
C'est une organisation de l'électricité très intelligente. Prenez un système nucléaire, c'est vachement facile. Vous mettez une grosse usine nucléaire et puis ça balance de l'électricité partout. On sait faire. Maintenant, essayez de faire la même chose avec du solaire, de l'éolien. C'est beaucoup plus compliqué. Et ça, il faut avoir une connaissance en permanence de ce qui se passe, des besoins, des consommations. Et ça, je m'excuse, ça doit être en temps réel. Donc, on sait qu'il y a des applications. Encore une fois, à savoir quelle va être la killer app. Mais si on avait attendu de savoir quelle serait la killer app pour développer l'informatique, on serait encore en train de se poser la question, est-ce qu'il faut vraiment développer l'informatique et mettre de l'énergie dedans?
Il y avait des killer apps. Je m'excuse si c'était la simulation de la bombe nucléaire.
Regardez le début de l'informatique, c'est pas si vrai. Il y a le patron d'IBM qui dit à un moment donné, je pense qu'il y a besoin de 5 ou 6, peut-être 10 ordinateurs dans le monde. Donc non, il faut quand même, je suis d'accord avec vous, il faut réfléchir, c'est une nouvelle techno, est-ce qu'on en a besoin? C'est une vraie question. Je pense qu'il y a suffisamment de raisons, mais c'est un débat. Alors pour en revenir aux aspects consommation, c'est quelque chose qui avait consommation d'énergie, c'est quelque chose qui avait souligné Yael Benayoun avant. Le truc important, c'est pas tellement la consommation des réseaux en tant qu'électricité, parce que ça, finalement, c'est super surprenant, mais on a fait toutes ces avancées technologiques. En gros, on double tous les 18 mois la quantité de données qu'on consomme. Et pourtant, l'énergie des réseaux, elle est à peu près la même. Elle ne bouge pas tellement. Par contre, il y a une consommation considérable pour la fabrication des objets. C'est ce que vous aviez dit. Et là, il y a un vrai souci. Et donc, il faut vraiment se poser les vrais soucis. Alors moi, je vous donne un truc. C'est pas de la 5G, c'est pas de la nouvelle technologie. Les Français changent de téléphone portable tout le un peu moins de 2 ans. Ça n'a aucun sens. Et c'est pas parce qu'il y aura la 5G qu'ils changeront plus ou changeront moins. Ils vont changer un peu moins de 2 ans. Si on laisse faire les opérateurs, peut-être qu'il va y avoir des grands panneaux dans le métro, acheter un téléphone 5G. On tombe sur la tête. C'est quelque chose qu'il faut pas faire. Ça a rien à voir avec lancer ou pas la 5G. Ça a à voir avec le fait que est-ce qu'on doit trouver des méthodes pour encourager les citoyens à ne pas changer de téléphone tous les 23 mois. C'est ça la question.
France Culture. Le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
Écoutez le temps du débat du samedi. France Culture, évidemment, et la question que nous posons ce soir, 5G, êtes-vous amish ou technolâtre? Avec nos trois invités, Serge Abitboul, qui est membre du collège de l'ARCEP et directeur de recherche en informatique à l'École Normale Supérieure de Paris à l'INRIA, Yael Benayoun, qui est cofondatrice de l'association Le Mouton Numérique, et l'historien Jean-Baptiste Fressoz, spécialiste historien des sciences, des techniques et de l'environnement. Alors, vous vouliez réagir, Yael Benayoun, à ce que disait Serge Abitboul juste avant la virgule et cette musique de Björk, hein, qu'on a choisie parce que justement c'est une musique qui a été pensée dans un univers numérique, voilà, qui nous habite aujourd'hui ou qu'on habite nous-mêmes, je sais pas comment il faut dire. Vous vouliez réagir, Yael Benayoun.
Oui, non, je voulais juste réagir sur le fait, effectivement, la proposition que faisait Serge Abitboul était peut-être de prendre conscience de sa consommation et déjà pour les consommateurs de réduire effectivement ses achats. Mais j'ai envie de dire, ils ont bon dos, les consommateurs. Hein, c'est facile de leur dire.
Je m'excuse, j'ai pas été clair. Je ne mettais pas la responsabilité que sur les consommateurs. Hein. Ah. Je ne pense que d'essayer de leur donner toute la responsabilité. Alors, c'est de votre faute. C'est vraiment pas comme ça qu'il faut faire. Donc, c'est pas du tout ce que j'ai dit.
Et d'ailleurs, c'est pas l'état du débat, puisque les sénateurs ont rendu un rapport au mois de juin qui faisait un certain nombre de propositions justement pour limiter l'impact numérique. Parmi ces propositions, il y avait qui est un peu un serpent de mer, hein, mais la question de l'obsolescence programmée, par exemple. Voilà, on avait tout un tas de propositions qui vont dans ce sens. Et d'ailleurs, Yael Benayoun, pour faire avancer un petit peu le débat et la discussion, pourquoi est-ce que ne pas faire confiance justement à l'encadrement, se dire qu'on a une technologie qu'on va développer, et la question sera plutôt de discuter de l'encadrement, tout comme finalement, on a vu l'exemple de la RGPD récemment, des règlements qui ont permis, qui ont été pris au niveau européen et qui ont permis d'encadrer un petit peu les pratiques, notamment sur les données personnelles. Alors peut-être que vous allez me dire que ça ne marche pas du tout, hein, mais voilà, on a l'impression que c'était plutôt présenté comme une réussite et qui pourrait être un exemple de la façon dont on pourrait accompagner le développement de la 5G.
Okay. Mais du coup, tant mieux si on était d'accord. Mais je pense que c'était important juste de le repréciser, parce que c'est vrai que dans les débats, on entend souvent un peu cette responsabilité que doit porter le consommateur, alors qu'effectivement, il y a une industrie plus globale derrière.
Merci de m'avoir permis de préciser.
À prendre en compte. Donc tant mieux d'avoir reprécisé ça. Du coup, sur votre
sur la possibilité
question...
d'accompagner d'un point de vue réglementaire ou par des lois, tout simplement, le développement de la 5G qui permettrait d'éviter, évidemment, si tant est qu'on arrive à avoir un débat politique un peu informé sur la question et qui permettrait d'éviter les dérives que vous semblez pointer du doigt.
En fait, ce que je trouve aussi intéressant quand on réécoute les propos de notre président Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, il utilise les mêmes mots qu'on utilise quand il y a des nouvelles technologies qui arrivent en entreprise. C'est-à-dire qu'il disait, en gros, on va...
Il s'adresse à des entrepreneurs en même temps. Donc,
Non, mais le lendemain, il a fait une réponse... Je ne sais plus où, mais bon, bref, où en gros, il disait, on va bien sûr développer la 5G, mais on fera attention de mettre toutes les garanties en place. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, je trouve, c'est qu'il y a, ça se passe dans les entreprises, c'est que vous avez un projet stratégique qui est défini par les directions, que normalement, c'est quand même censé passer devant des instances représentatives du personnel qui doivent jouer des rôles de garde-fous pour un peu évaluer le projet et quand même faire des réponses dessus. Mais, in fine, ce qui se passe, c'est que même quand ils arrivent à dire « attention, il va y avoir un impact sur la vie des travailleurs », l'entreprise en face a seulement besoin de répondre en assurant justement ces garanties et en fait en faisant un plan de prévention en disant « pas de souci, on a pris en compte les risques et on va mettre les bons plans au-dessus ». Et ce que je trouve extrêmement intéressant là-dessus, c'est qu'on a exactement la même chose qui se passe, mais là donc pas dans l'entreprise, avec finalement l'action politique qui se gestionnarise, ou en tout cas qui part du principe que la tendance est comme elle est, que de toute façon on va pas la changer puisque le plan est déjà décidé, et que la seule action politique possible est seulement de gérer les risques qui pourraient arriver. Et donc, là, c'est là où je mets peut-être, en tout cas, un peu d'alerte, de se dire, mais si vraiment l'action politique se réduit seulement à conserver le monde tel qu'il est ou tel qu'on prévoit qu'il va être, c'est quand même un peu limité. Et donc là, on revient sur un peu l'état du débat. Il y a un moment, ça c'est quand même bien de se poser, surtout en plus s'il n'y a pas d'urgence, pour se dire, en fait, quel monde, non pas... on a et qu'on veut garder avec des garanties, mais quel monde on aimerait avoir au vu des enjeux, notamment environnementaux et sociaux également. Et après, du coup, et que la question technologique ne vienne pas en amont, mais vienne bien après.
Et puis le mot risque a été prononcé. Je trouve qu'on a un peu trop vite évacué quand même la question sanitaire. En tout cas, on l'a pas du tout abordé pour l'instant. La source pour dire c'est pas dangereux, en fait, ça vient de l'ICNIRP. Alors l'ICNIRP, je l'avais noté parce que c'est compliqué, mais c'est un institut, c'est une ONG en fait, qui s'appelle the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, qui est donc basée à Munich, et qui est un peu, disons, celle qui fournit les doses, les seuils sur les expositions des radiations électromagnétiques, sur ce qui est dangereux ou pas, en gros. Et c'est elle qui donne le « là », mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'ICNIRP, en fait, il y a eu un article là-dessus dans Le Monde, il y a un problème, c'est que c'est pas vraiment, c'est pas une science neutre et désintéressée. Bah, c'est la plupart des gens déjà sont des physiciens et pas des médecins, ce qui pose quand même question quand on veut évaluer des conséquences sanitaires. Évidemment, c'est des physiciens qui travaillent avec les boîtes de télécom et qui ont leur recherche financée par les boîtes de télécommunications. Donc, en fait, on ne sait pas La vérité, c'est qu'on est incapable de dire, et tous les rapports qui vont vous dire, en fait, non, il n'y a aucun risque, en fait, ils en savent rien. C'est ça qui m'embête. Il y a peut-être aucun risque, j'en sais strictement rien. Mais la question n'est pas là, c'est qu'en fait, on n'a même pas une expertise neutre et sérieuse là-dessus.
Alors, Serge-Habit, vous le savez que ça, c'est vraiment une question qui est centrale dans le déploiement de la 5G. Et d'ailleurs, depuis un certain temps, depuis le déploiement de toute forme de technologie qui fonctionne avec les ondes, puisqu'on a vu peu à peu monter les inquiétudes, évidemment, dans le public. Et la question des risques sanitaires, elle est particulièrement sensible en ce moment pour d'autres raisons. Alors, il y a un rapport de l'ANSES qu'on attend pour 2021, mais son patron, Olivier Merkel, annonce déjà on ne pourra jamais démontrer le risque sanitaire zéro. Et donc, je crois que vous aussi, à l'ARCEP, vous avez mené un certain nombre d'études, en tout cas commandé un certain nombre d'études sur l'impact sanitaire. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ce titre-là?
Alors, d'abord, sur l'impact sanitaire, c'est pas nous qui sommes concernés, c'est l'ANSES. Donc, nous, on n'est pas du tout les spécialistes et on n'a aucune... Donc, tout ce que je vais vous dire, je vais vous donner des informations de non-spécialistes, puisque j'y connais rien, a priori. Tout ce que je sais, parce qu'évidemment, j'ai regardé, et ça, c'est que... D'abord, il faut revenir un peu en arrière. Les ondes, c'est quelque chose qu'on a autour de nous et qui naturellement inquiète. Et c'est pas nouveau, vous l'avez dit en tant qu'historien. C'est depuis le début qu'il y a des ondes, les gens se disent « Ah, mais ce machin-là, je le sens pas ». Depuis le début, il y a des études médicales qui ont été faites et qui s'entassent et qui sont à des niveaux que moi je trouve assez impressionnants et qui toutes concluent à l'innocuité. Alors après, ça prouve pas, encore une fois, le directeur Lancès le dit bien, on se trompe, il y a un nouvel article qui vient de sortir, une nouvelle recherche sur l'impact que ça pourrait avoir sur les insectes. Je sais pas, ça pourrait avoir un impact sur les insectes. Il faut l'étudier.
C'est une étude allemande, en effet, qui vient de sortir cette semaine et qui montre que peut-être...
Peut-être un impact sur les insectes. Évidemment, il faut l'étudier, puisqu'on est surpris, on comprend pas la mort des insectes, il faut essayer de comprendre. Donc, évidemment, ces études doivent continuer. Seulement, encore une fois, toutes les études qui ont été faites montrent que n'ont pas pu montrer de dégâts. Les niveaux auxquels elles sont situées, faut aussi regarder ça. C'est-à-dire qu'on, comme on ne sait pas, on met des barres. Donc vous avez une barre qui est mise par l'OMS. L'Europe en rajoute et est encore plus restrictive. La France est encore plus restrictive. Dans la réalité, c'est encore plus restrictif. Donc on est quand même très très loin de ce qui pourrait être considéré comme dangereux. Ça, est-ce que je vous promets que ça l'est pas? Non, j'en sais rien. C'est pour ça qu'il faut continuer des études et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais encore une fois, c'est pas une raison pour arrêter tout. Il y a des tas d'ondes qui sont autour de nous qui sont beaucoup plus dangereuses et sur lesquelles, à mon avis, il faut beaucoup plus travailler. Je vais juste prendre un exemple avant de vous repasser la parole. Moi, j'ai téléphone toujours avec
une oreillette.
Je mets pas mon téléphone à côté de mon lit quand je dors. À part ça, les ondes que vous avez avec ça sont beaucoup plus importantes que celles que vous allez recevoir de votre 5G. Et une dernière phrase quand même, la 5G qu'on va lancer bientôt, c'est sur 3,5 GHz. C'est donc des ondes qui ont déjà été utilisées, qui sont des zones d'ondes qu'on connaît relativement bien. Il y a des inquiétudes sur des ondes millimétriques qui sont très différentes et sur lesquelles on a moins d'expérience. Encore qu'on en ait déjà, et que tout ce qu'on sait, c'est que ça va au contraire moins profondément dans la peau. Donc, encore une fois, moi, si vous me demandez, en tant que citoyen, quelle est mon inquiétude, elle est environnementale, elle n'est pas sanitaire.
Non, vraiment, vous avez dit, on ne sait pas ce qui cause les insectes, donc on cherche. En fait, on sait assez bien ce qui cause la disparition des insectes. C'est intéressant parce que c'est vraiment lié à l'introduction d'une certaine catégorie de pesticides, les néonicotinoïdes, dans chaque pays à partir du moment où on
l'introduit. Mais là, c'est une enquête sur les ondes.
Non, j'entends bien, mais alors, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que en fait, l'industrie des pesticides, l'industrie chimique, était très forte pour financer tout azimut, tout un tas d'autres enquêtes de causes qui pourraient éventuellement produire la disparition d'insectes pour créer l'incertitude. C'est pour ça que je me méfie de dire
que
c'est
des marchands.
Exactement.
Qui ont été là,
j'ai
pu faire
un exemple assez typique.
Mais ça n'empêche pas qu'il faut l'étudier.
Ouais, créer le doute pour évidemment détourner l'attention. C'était notamment une technique employée par les industries du tabac.
Depuis 18 mois environ, on voit en France des hommes et des dames aussi bien qui ont sur les oreilles un casque leur permettant d'écouter la musique même dans les bruits de la circulation. Ce sont des Walkmen. L'invention est due au président d'une grande firme japonaise d'appareils audiovisuels qui désirait lui écouter de la musique tout en jouant au bas.
Le Walkman dans le métro, qu'est-ce que ça représente?
Ah, c'est important parce que, tu vois là, c'est triste le métro, les gens, ils sont pas... Alors, la musique, du rock, bien sûr, un jazz rock aussi, et tout, ça détend. C'est vraiment très important.
Mais c'est une façon de se couper du monde, ou quoi?
C'est une façon de se couper du monde, je crois, ouais. Et puis aussi, j'aime bien la musique, tu vois. Bon, j'écoute ce que j'aime, puisque c'est des cassettes que j'enregistre, et puis je suis bien.
Une mode, oui, mais une mode peut-être pas sans conséquences. Il ne s'agit pas d'éviter aux autres le bruit que l'on peut faire, mais de s'éviter à soi le bruit et la présence des autres. Pour les psychiatres, c'est une nouvelle rupture plus grave que celle des générations. Alors ce danseur au Walkman fait-il un pas en arrière ou un pas en avant ?
Fait-on un pas en arrière ou un pas en avant ? C'est la question qu'on se pose aussi ce soir. Là, on est en 1979. Vous avez peut-être reconnu Léon Zitrone, pour les moins jeunes d'entre nous. Voilà, et qui s'inquiétait, en tout cas qui faisait ce reportage, s'inquiétant des conséquences psychologiques du Walkman qui nous coupe de la société. C'est évidemment pour mettre un peu de sourire dans cette discussion, mais pour montrer que voilà, chaque innovation technologique, il y a des questions qui se posent, mais aussi pour reporter le débat, puisqu'on a parlé des questions sanitaires, des questions environnementales. On aurait pu le faire beaucoup plus longuement. Finalement, il faudrait presque une émission par sujet pour aller au fond des choses, et on n'y arriverait toujours pas, Yael Ben Ayoun. Mais sur la question que vous posiez aussi, qui est la question finalement du choix de société, sur laquelle j'aimerais qu'on passe quelques minutes, les quelques minutes qui nous restent, voilà, la question de l'hyperconnectivité, de l'hyperconsommation. C'est-à-dire que la 5G, c'est aussi devenu, au-delà de ce qu'on sait ou de ce qu'on ne sait pas de ses conséquences, c'est devenu un symbole, et pris comme tel, d'un choix de société où on va toujours vers plus de connectivité, et donc plus de rapidité aussi, puisque c'est ce qui nous est promis par la 5G.
Oui, et il y a d'ailleurs aussi une peut-être conséquence ou un risque dont on ne parle absolument pas, mais qui est quand même le risque de dérive sécuritaire ou en tout cas de sécurisation de l'espace public, puisque les études, je pense notamment au cabinet Gartner, a montré que dans la première année du déploiement de la 5G, c'était 70% des équipements reliés au réseau qui en fait sont des caméras de surveillance. Et dans les cinq premières années du déploiement, c'est effectivement ce marché-là de la surveillance qui dominera en fait le marché et les équipements. Donc effectivement, ça pose quand même des questions un peu de fond, qui sont quelle société voulons-nous ? Parce que là, si on reste sur ce déploiement de dispositifs sécuritaires, on sait bien que ce n'est pas anodin sur la manière dont les citoyens s'emparent de l'espace public et peuvent ça porte atteinte tout simplement à leur liberté fondamentale. Et peut-être juste pour avoir un chiffre qui est quand même important, qui vient d'un organe indépendant à Londres qui essaye de faire le lien avec les forces de l'ordre et les habitants, qui a montré que 38% des jeunes de 16 à 24 ans déclaraient qu'ils n'iraient pas manifester s'ils savaient que les forces de l'ordre utilisaient des dispositifs de surveillance. Ce qui, quand même, pose question en termes de...
Oui, sur les déclarations, en même temps, on voit dans des pays comme en Chine, enfin à Hong Kong notamment, que ça n'a pas empêché les Hongkongais de descendre dans la rue,
mais
dans
des conditions,
mais ils se protègent en effet.
Avec des parapluies, il y a tous des dispositifs qui sont mis en place.
Et je renvoie vers Les Furtifs, l'excellent roman d'Alain Damasio qui pose ces questions-là, mais c'est un roman de science-fiction, mais voilà, Serge Habitboul, c'est vrai qu'on est un petit peu obligé aussi de se projeter et de s'interroger. Qu'est-ce que ça fait à la société, la 5G, notamment sur ces questions de l'hyperconnectivité, de l'hyperconsommation. On dit souvent, c'est peut-être un peu anecdotique, mais que les grands patrons de la Silicon Valley interdisent à leurs enfants d'utiliser des écrans, des iPads, etc. Parce qu'ils ont, eux, bien conscience des problématiques qui sont posées par la numérisation de la société. Et on se dit, évidemment, la 5G, ça pousse à cette numérisation.
Alors, pour juste sur les enfants des grands patrons de la Silicon Valley, c'est problème de riches et de très connectés. Je pense qu'en France, on a quand même énormément de jeunes qui n'ont pas d'accès ou qui ont pas assez d'accès et qui, de toute façon, n'ont pas non plus les connaissances, le moyen d'utiliser la technologie et connaissent pas l'informatique. Donc, je pense que c'est plutôt ça le problème en France. Pour moi, c'est plus la littératie numérique qui est le problème, plus que la surconnectivité. Mais bon, c'est pas un détail, c'est important quand même. Alors maintenant, je veux rebondir sur une question qui est vraiment la question de la nécessité de ce débat. C'est quelle société voulons-nous? C'est pour ça que le sujet est particulièrement important, parce que il y a de la technologie, il faut sortir de la 5G, c'est la techno numérique en général. Il y a une techno qui est là, qui est de plus en plus prégnante, qui s'impose à nous, et par moments, on a l'impression qu'on ne décide pas ce qu'on fait avec. Or, c'est un choix citoyen, c'est un choix collectif. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette technologie ? Alors, vous avez parlé,
El Benayoun 2, la surveillance, évidemment, c'est un endroit où il faut faire extrêmement attention. Évidemment. Moi, je voulais rebondir, comme vous l'avez déjà traité, je vais parler d'autre chose, revenir sur la rapidité. La rapidité qu'on nous amène avec le numérique ou avec la 5G encore plus, c'est une rapidité qui est d'une certaine façon inhumaine. C'est-à-dire que c'est un rythme qui n'est pas le rythme avec lequel nous, en tant qu'humains, nous voulons vivre. Et donc, il faut faire attention dans la société qu'on choisit que ce rythme-là ne soit pas imposé aux humains. Donc, si on revient sur les usines, moi, quand je vois une usine connectée, je trouve ça génial. Si les machines sont connectées et réagissent au quart de tour, mais si les humains doivent essayer de suivre le rythme, je ne suis plus du tout d'accord. C'est-à-dire que ça doit décharger les humains des tâches pénibles, mais ça ne doit pas du tout servir à les rendre encore plus esclaves de la machine.
Mais si on prend justement cet exemple des usines, la promesse de libération des travailleurs par la machine, elle est ancienne, Serge Habitboul, et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette promesse n'a pas vraiment été tenue. Donc pourquoi est-ce que là, avec la 5G, ce serait le cas ?
Parce que, encore une fois, je sors un peu de la 5G. Pour moi, c'est pas la 5G, c'est pas un Graal. Il faut régler le problème de la prise en main par la société de ce qu'elle veut faire du numérique en général. C'est ça la question qui est posée aujourd'hui. Et plutôt que de s'envoyer des slogans sur on arrête la 5G, on n'arrête pas la 5G, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette techno? C'est ça la vraie question. Et là, si on doit faire quelque chose, une des choses qu'on doit faire, c'est la mettre au service des citoyens, des travailleurs, et pas le contraire.
Jean-Baptiste Fressos, pour conclure, un historien que vous connaissez bien, François Jarry, je parle lui de technosolutionnisme avec cette idée que voilà, on va toujours trouver des technologies qui nous permettent d'apporter des solutions à des problèmes de société qu'on se pose. Vous dites, la théologie de l'innovation était déjà ringarde au début du 19e siècle. Est-ce qu'on est toujours dans cette question-là? Est-ce que malgré tout, voilà, on peut pas trouver avec ces nouvelles technologies, quitte à les encadrer, et évidemment des moyens. Voilà des raisons d'espérer qu'enfin on va pouvoir.
Bien sûr, non, mais je veux dire, la question, c'est évidemment pas d'être technophobe ou quoi que ce soit, évidemment. Enfin, je veux dire, c'est juste que là, la 5G, ce qui est particulièrement marrant, c'est que vu qu'ils n'ont pas d'application intéressante, on est dans un délire technosolutionniste absolument extraordinaire.
Ça va être. Serge Habitboul a essayé de vous montrer que c'était pas tout à fait.
La ville connectée qui va résoudre la question du changement climatique, ça, c'est quand même pas mal. Il fallait la sortir. Le bras téléguidé par le chirurgien qui va résoudre le problème qu'il n'y a pas assez de médecins en France, ça, fallait quand même le sortir. C'est chouette. Donc voilà, je trouve que c'est juste que ce débat-là est vraiment très, très, très mal
posé. Mais quel débat aurait-on
eu
sur Internet, par exemple, si on avait été là tous ensemble au moment où on.
Ça ne sert à rien.
Voilà, c'est. D'une certaine manière, on peut aussi se poser la question effectivement de l'utilité d'Internet. Au début, on n'est pas obligé de courir très vite sur Internet. Il n'y avait pas d'obligation à passer sur tout le numérique. Internet a détruit énormément de valeurs. Enfin, je veux dire, Robert Gordon qui explique bien ça. En gros, depuis qu'il y a la numérisation, il n'y a pas des gains de productivité extraordinaires dans les entreprises. L'histoire des gains de productivité est plutôt avant le numérique. Donc,
l'économiste américain Robert Gordon qui a montré que ça n'avait pas été finalement un saut technologique, en tout cas pour l'économie.
On n'arrête pas de se gargariser d'économie. De technologies de rupture, mais ces technologies de rupture, on les voit pas dans le bien-être et le calcul du PNB, donc ça pose quand même un certain nombre de questions, enfin un peu plus générales, effectivement.
Merci beaucoup à tous les trois. Bon, on voit que ce débat ne fait que commencer, puis comme vous nous avez dit que de toute façon la 5G c'était pas avant 2025, et ben on a 5 ans pour continuer à en discuter, même si ça commence à se mettre en place. Merci beaucoup Serge Habitboul, donc on continuera à suivre ce que fait l'ARCEP. Merci Yael Benayoun, je signale que vous allez sortir Technologie partout, démocratie nulle part, plaidoyer pour que les choix technologiques deviennent l'affaire de tous, c'est chez FIP le 8 octobre. Jean-Baptiste Fressos, on mettra évidemment vos livres qui traitent de ce type de questions sur la page du temps du débat du samedi. À la réalisation ce soir, c'était Vanessa Nadjar, à la prise de son Benjamin Vignal. Merci à Seam Boutata pour sa collaboration. Lundi, dans le temps du débat, Emmanuel Laurentin posera la question, le vaccin contre le Covid, ou la Covid, qui sait, pourra-t-il rester un bien public? Mais avant cela, dès demain, le prochain rendez-vous avec un magazine d'actualité, c'est L'Esprit Public à 11h. Émilie Aubry qui posera une seule question. Rentrée 2020, le grand déconfinement des peurs françaises. Tout de suite, c'est Politique avec Hervé Gardette. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à toutes et à tous à l'écoute de France Culture.